Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline, à demain, même heure, même endroit pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous, ne bougez plus et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Aux commandes du journal pour commencer ces deux heures, Amélie Perrier, bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel de ce mercredi commence forcément dans la rue.
40 000 manifestants à Paris pour le 1er mai selon notre décompte et des échauffourées au moment de la dispersion dans le sud de la capitale. Les Black Blocs ont semé le chaos, les forces de l'ordre ont riposté, nous irons sur place. Nous demanderons aussi aux syndicalistes venus aujourd'hui pour la fête du travail s'ils se sentent dépossédés de leur manifestation. En revanche ailleurs en France, à Bordeaux, au Havre ou à Lyon, les gilets jaunes et syndicalistes ont marché main dans la main dans le calme. Elle est athlète, femme, mais avec beaucoup de testostérone dans le corps. Caster Semenya va devoir prendre un traitement hormonal si elle veut continuer à gagner des titres sur 800 mètres en Afrique du Sud. Ses supporters sont indignés. Et puis Léonard de Vinci est mort il y a 500 ans au Clos Lucé. On se prépare à accueillir pour l'anniversaire les présidents Macron et Mattarella. Le château d'Amboise, en attendant, fait le plein.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir, on va tâcher de hacker les hackers grâce à un livre et un documentaire aussi passionnant sur le monde des hackers russes, ceux qui savent entrer dans les secrets d'État, les Russes et d'autres aussi d'ailleurs. Une nouvelle guerre dans laquelle les soldats sont de jeunes gens doués dans les codages et les chiffrages, dont on ne sait pas trop d'ailleurs s'ils sont idéologues ou mercenaires. Ce soir, nous sommes aussi dans le musée Pompidou de Malaga. Et puis 19h20, le téléphone sonne en ce 1er mai. Êtes-vous heureux dans votre travail? Je vous pose la question parce que les injonctions à être heureux en entreprise à coups de séminaires, de yoga et de baby-foot, la caricature de l'entreprise feel-good, des coachings, des jeux de rôle, tout ça, c'est un business, mais les chiffres de souffrance au travail n'ont jamais été aussi hauts. Les récits de burn-out à cause de tyrannie de chef, à cause de demandes contradictoires, de sens perdu. Et c'est de tout cela dont on parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des slogans syndicaux donc relégués au second plan en cette fête du travail.
Un 1er mai particulier, hein, en pleine colère jaune et sous la menace des radicaux en noir, les Black Blocs. À Paris, les forces de l'ordre ont dû lancer des lacrymogènes sur le cortège, à Montparnasse, contre ces protestataires venus en découdre. À tel point que le patron de la CGT, Philippe Martinez, a dû battre en retraite dans une rue plus calme à la mi-journée, avant de revenir et de dénoncer la répression inouïe des forces de l'ordre. Les syndicats se sont-ils fait confisquer leur 1er mai? Bonsoir Adrien Taufollet.
Bonsoir Amélie.
Vous avez suivi la manifestation et vous avez posé donc la question aux militants.
Effectivement, et pour comprendre, je vous emmène en tout début de manifestation. Alors, on n'est pas en tête de cortège où se trouvent normalement les Black Blocs, mais en plein milieu des militants CGT, plusieurs explosions suivies d'une charge des CRS, des scènes qui se répéteront plusieurs fois jusqu'à l'arrivée Place d'Italie, où se trouve Jean-Michel. Des années de manifestations derrière lui, il est tout simplement dépité, il ne comprend pas qu'une telle situation arrive.
Complètement gâché, parce que en plus le 1er mai, il est toujours déclaré dans ce sens-là. Nous, on voyait bien d'où on était, gare Montparnasse, il y a eu des jets de pierre, du gazage, tout ça. Et soi-disant, ils étaient au bord, les Black Blocs. Mais ils ont la force, soi-disant, d'isoler ces gens-là. Pourquoi ils n'ont pas envoyé tout ce bataillon comme on voit ici, là, toutes les forces de l'ordre?
Pour Joël, militant CGT, le constat est encore plus amer. Les axes pour arriver sur la manifestation ont rapidement été bouclés par les camions de forces de l'ordre dès les premiers incidents. Impossible pour lui, donc, de rejoindre le cortège.
Malheureusement, on était bloqué à Montparnasse. Il y avait des CRS qui gazaient. Donc, on a été obligé de reculer parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On a entendu parler que, il y a des ballons de syndicales qui étaient dégonflés, tout ça. Donc, on a voulu repartir sur la place d'Italie. Et là, on est rebloqué de nouveau. On ne peut même pas manifester à l'envers. On ne peut pas rentrer dans la manifestation. C'est vraiment dommage. Ça fait 40 ans que je manifeste. C'est la première fois que je vois ça. Le gouvernement avait été responsable de la sécurité. Il n'a pas joué son rôle.
Et de nombreux manifestants que j'ai pu rencontrer m'ont d'ailleurs dit comprendre les interventions parfois violentes des forces de police. Mais pour ce qui est de la responsabilité du fiasco, selon eux, le gouvernement n'a pas été à la hauteur.
Merci Adrien avec Stéphane Beaufils pour la liaison technique. Et selon notre comptage indépendant réalisé par le cabinet Occurrence, il y avait 40 000 manifestants dans le cortège parisien cet après-midi. La préfecture de police, elle, annonce 288 interpellations et 220 personnes en garde à vue en cette fin d'après-midi. Voilà pour Paris, une exception toutefois en France, car en région, les défilés du 1er mai se sont déroulés dans le calme, avec du monde dans les cortèges, plus de 6 000 manifestants à Bordeaux, selon la préfecture, 3 000 à Caen, nous dit la CGT, 2 500 à Rouen, 2 000 à Nancy, pareil à Tours et Clermont. Clermont. Gros cortège ce matin aussi à Lyon, 6 à 10 000 personnes selon les sources. Le double de l'an passé, se réjouit la CGT. Un cortège où gilets jaunes et syndicalistes ont marché ensemble, en bonne entente, Christophe Vincent.
Le même cortège, le même parcours, ils ont presque tout partagé, y compris les kebabs et les merguez à l'arrivée place Bellecour. Martine, militante CGT.
Les gilets jaunes, ce sont les travailleurs. La CGT défend les mêmes choses que les gilets jaunes, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, l'arrêt de la casse des services publics, l'augmentation des impôts pour les plus riches. On défend les mêmes valeurs, les mêmes choses. Pour l'école, pour les hôpitaux, pour tout ça. Puis aussi pour une redistribution juste, pour que les riches payent plus et que les pauvres payent moins.
Gilet jaune, Pierre précédait le cortège sur sa moto. Sa présence était une évidence.
Je pense que les problèmes de fond sont partagés par tout le monde, que l'on soit syndicaliste ou simplement simple citoyen. J'approuve le fait que les gilets jaunes soient présents. C'est un combat général et je pense qu'il va devenir mondial, hein, de toute façon. On est tous humains, on est tous citoyens, on est complémentaires, on forme la France à nous tous. Acceptons-nous comme nous sommes, avec nos différences et nos histoires. On continue.
Ils se sont donné rendez-vous samedi, comme d'habitude. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Cortège relativement calme donc en région, mais à Paris, on y revient. La manifestation a été le théâtre d'affrontements, des contrôles aux portes de la capitale très tôt ce matin pour fouiller les voitures, saisir des armes éventuellement. Cela n'a pas suffi. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Vous êtes près de la place d'Italie, hein, point d'arrivée de la manifestation où les tensions se sont exacerbées donc en fin de cortège.
Oui, une manifestation qui s'est rapidement tendue dès la mi-journée avec une première formation d'un Black Bloc dès le départ près de Montparnasse. Des échauffourées qui se sont ensuite concentrées ici, tout près de la place d'Italie, boulevard de l'Hôpital. Les Black Blocs ont tenté de prendre d'assaut le commissariat du 13e arrondissement protégé par des grilles mobiles sous les yeux de Gilles, un Parisien.
200 environ jeunes habillés tout en noir sont montés à l'assaut des grilles et les gardes mobiles étaient derrière dans la rue Coypel et donc ils ont rajouté de grenades et depuis c'est assez violent. Il y a eu des pavés, un ou deux cocktails Molotov et puis tout ce qui traîne par terre. Scène d'émeute très dangereuse.
Les affrontements se sont poursuivis sur le boulevard avec aux abords des affrontements les yeux rougis pour des gilets jaunes révoltés en tête de cortège comme Sylvie.
C'est obligé qu'il y ait des actes de dégradation, monsieur. On comprend qu'à force de se faire canarder, à force de se faire tirer dessus, il y en est assez. Il y a eu des flashballs sur un parcours autorisé. On nous a bloqués, on nous charge, on nous gaze. C'est des gens qui ont renié leur patrie pour agir de telle façon sur un peuple qui n'est pas armé. Il faut que ça s'arrête.
Et le cortège arrive en ce moment même derrière nous, boulevard de l'Hôpital, sur la place de l'Italie, accueilli il y a quelques minutes par les mêmes tirs de gaz lacrymogène dans une ambiance encore tendue, avec en ce moment l'arrivée des cortèges syndicaux et des ballons du syndicat CGT.
Rémi Brancato en direct de la place d'Italie à Paris avec Alexandra Bergello au moyen technique. Merci à vous deux. Voilà pour les manifestants et les Black Blocs. Les politiques, eux, ont voulu saluer la convergence des luttes. Olivier Besancenot disait espérer que ce 1er mai scelle l'alliance entre les Gilets jaunes et le mouvement ouvrier traditionnel. Dans la même veine, Jean-Luc Mélenchon, lui, a manifesté à Marseille. Il s'est félicité de la jonction entre les deux mouvements. Le 1er mai à l'étranger aussi, c'est une grève des marins du port du Pirée en Grèce. Aucun bateau pour rejoindre les îles grecques aujourd'hui. Les bus et les trains sont aussi à l'arrêt. 1er mai également en Russie. Environ 2000 manifestants ont défilé à Saint-Pétersbourg. Des anti-Poutine, les forces de l'ordre ont arrêté une soixantaine de protestataires.
Et on en vient, Amélie, à cette décision du tribunal arbitral du sport, le TAS. Il contraint une sportive à prendre un traitement hormonal.
Une athlète sud-africaine, Caster Semenya, née intersexuelle, a un excès de testostérone dans le corps. Double championne olympique sur 800 mètres, triple championne du monde sur la même distance. Ses détracteurs l'accusent de tricher à cause de sa particularité physique. La Fédération internationale d'athlétisme lui ordonne de prendre un traitement pour faire baisser son taux d'hormones masculines. Elle refuse et en appelle au TAS qui vient de la débouter en Afrique du Sud où elle est largement soutenue. Ses fans dénoncent un règlement inhumain. Le président, les députés et de très nombreux Sud-Africains ont soutenu Caster Semenya dans son combat, mais c'était peine perdue, comme le regrette cet athlète professionnel.
Un corps produit naturellement de la testostérone. Caster est né comme ça. Je pense que la fédération n'aurait pas dû faire ça. Si Caster doit réduire son taux, sa récupération sera longue et son programme d'entraînement sera à revoir. Ils ont une dent contre Caster et je pense que c'est injuste.
Le tribunal émet toutefois des réserves, notamment à propos des effets secondaires du traitement hormonal, un point qui inquiète Sibonisso, admirateur de la championne.
Cela pourrait être dangereux, essayer de changer ses hormones, ça doit avoir des effets sur la santé. On admire beaucoup Caster, on voit tout le travail qu'elle fournit, donc on est vraiment déçus.
Pour Sandra, qui suit l'affaire de loin, c'est une question de société qui dépasse le monde du sport.
On doit utiliser les talents qu'on nous donne à la naissance. Et si Caster Semenya reçoit ses injections, elle ne sera plus la même personne. Je pense que c'est mal de promouvoir cela. Et on ne devrait pas la stigmatiser à cause de comment elle est née.
Le tribunal considère que le nouveau règlement est discriminatoire mais nécessaire pour préserver l'intégrité des athlètes féminines.
Un peu moins d'un an de prison prononcée contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, arrêté à l'ambassade équatorienne de Londres et condamné à 50 semaines de détention pour avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Plus délicate encore, la décision attendue demain à Londres. Un tribunal doit statuer sur la demande d'extradition émise par les États-Unis. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido espère un 1er mai massif pour déloger du pouvoir le président Maduro. Hier, un groupe de militaires s'est rallié à lui, mais n'a pas réussi à mener au bout cette tentative de putsch.
Il est 18h11 sur France Inter. Amélie, retour en France avec des inquiétudes de Notre-Dame.
Inquiétudes sanitaires aujourd'hui à cause du plomb présent dans les vitraux et un peu partout en fait dans l'édifice. Pendant l'incendie, ce plomb a fondu et ce n'est pas sans conséquence. Ce sont les associations qui s'alarment aujourd'hui. Le plomb est toxique pour la santé. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
Spécialiste santé, vous êtes avec nous. Alors pourquoi sont-elles inquiètes ces associations?
Eh bien parce que ce sont plusieurs centaines de tonnes de plomb qui se sont dispersées le 15 avril dernier, rien que sur la flèche qui s'est écroulée. Il y en avait 250 tonnes. Alors que sont devenues les poussières? Où sont-elles retombées? Qui en a respiré et qui en respire sans doute encore? C'est la question qu'a posée dès le 19 avril l'association Robin des Bois, son porte-parole Jackie Bonnemain.
Il faudrait faire un véritable plan des retombées de poussière de plomb qui se sont répandues vers l'ouest de la capitale au moment du panache, puis à la Seine aussi. Donc des analyses dans les poissons ainsi que dans les sédiments. Comme c'est une œuvre d'art, on a l'impression que ça pollue pas. Le plomb d'une œuvre médiévale est aussi dangereux que le plomb d'une fonderie contemporaine.
Pour l'instant, la préfecture de Paris indique qu'il n'y a pas eu d'intoxication au plomb. Il y a quelques jours, elle a simplement conseillé aux riverains de la cathédrale de passer une lingette humide à l'intérieur de leur appartement. Pas très sérieux, estiment les associations. Sans vouloir affoler la population, elle rappelle que le plomb est toxique, même à très faible quantité. Le docteur Madi de Nantes est médecin généraliste, proche de l'association des familles victimes du saturnisme.
C'est pas bon pour le cerveau, le plomb. C'est pas bon pour le cerveau des enfants. C'est pas bon pour le cerveau des fœtus. Il faut qu'on dose la plombémie des enfants, des femmes enceintes et des femmes susceptibles d'être enceintes un jour. Pourquoi? Parce que le plomb, il est stocké dans l'os. C'est-à-dire que les petites filles qui s'intoxiquent aujourd'hui, elles intoxiqueront leur bébé quand elles seront enceintes. Donc oui, il faut prendre ça très au sérieux.
Et donc pour ces associations, trois priorités aujourd'hui. Faire des prélèvements de contrôle, pas seulement aux abords de la cathédrale, mais sur tout le trajet de la fumée. Faire une prise de sang aux enfants et aux femmes qui ont été très exposées parce qu'habitant près de l'édifice, faire littéralement du porte-à-porte aussi pour les informer.
Véronique Julien, c'est un autre monument de notre histoire. Le Clos Lucé, le château au cœur de la ville d'Amboise, dernière demeure du génie Léonard de Vinci. Il y mourra le 2 mai 1519. Pour les 500 ans de sa mort, Emmanuel Macron s'y rend demain avec le président italien Sergio Mattarella. Une occasion de plus d'attirer l'attention sur l'édifice très couru en cet anniversaire exceptionnel, comme nous le raconte Mickaël Petitjean, le secrétaire général du Clos Lucé.
Nous avons accueilli près de 100 000 visiteurs au Clos Lucé, contre 81 000 l'an dernier. Donc vous voyez qu'on est à plus de 18 000 visiteurs depuis le début de l'année, autour de plus de 20%. On le sent encore plus au mois d'avril, mois pendant lequel on connaît une hausse de 28% de la fréquentation. C'est du jamais vu. Il y a un effet 500 ans, indéniablement. Une recrudescence des étrangers, de nombreux groupes scolaires, beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de clientèles européennes. Les Asiatiques reviennent. Mais je pense que la clientèle française, elle, est très très présente, davantage présente, hein, ce qui explique aussi cette hausse de fréquentation. Je n'ose pas le dire, mais la boutique progresse de 30 à 35%. 20%. Donc là aussi, c'est une année extraordinaire. La plupart des articles en boutique cette année se vendent très très bien. Je pense en particulier aux timbres, hein, créés spécialement. Il y a aussi les mugs 500 ans, les maquettes estampillées Léonard de Vinci, tous les produits dérivés qui évoquent les 500 ans. C'est une année extraordinaire.
Michael Petit-Jean du Clos Lucé. Et puis, gardien de foot star Iker Casillas vient de faire un infarctus pendant un entraînement avec son club, le FC Porto. L'état de santé de l'ancien portier du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne est stable, selon le club. Iker Casillas a 37 ans.
Et vous dites très ça, jeune. Là, vous êtes en train de devenir totalement guirette. Amélie, vous revenez quand même pour un jour dans le monde.
Promis, sous les radars ce soir, un vaccin prometteur contre le paludisme est testé en ce moment en Afrique. Des musulmans persécutés au Sri Lanka après les derniers attentats de Pâques. Et puis la Thaïlande en pleine répétition générale pour le couronnement de son roi.
Allez, merci beaucoup. Il sera autour de 18h37 quand vous reviendrez. Amélie, ce soir, nous plongeons dans le monde opaque des hackers russes. Nous sommes au musée Pompidou de Malaga également. Et puis, dans le téléphone sonne, allez-y, le standard est ouvert. On parle du business de la souffrance au travail. Quant à burn-out, on nous répond coaching et gestion du stress. Quant à équipe de travail mal assortie, on répond baby-foot. Quant à être heureux au travail, quand être heureux devient une injonction alors que les chiffres de souffrance n'ont jamais été aussi hauts. Qui marche donc sur la tête? Parlons de tout ça ensemble au 0145 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léa, ça s'arrête d'un coup cette histoire. Changement de temps prévu pour demain.
Oui, là aussi ça va s'arrêter d'un coup dès cette nuit. Même la perturbation qui donne actuellement des averses entre la Vendée et la Bretagne va s'enfoncer sur le pays et devenir de plus en plus active en prenant parfois des caractères orageux. On a déjà les premiers impacts du côté du Morbihan. La nuit s'annonce bien pluvieuse entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Massif Central et la Sologne. Et progressivement, ces pluies vont se décaler vers l'est pour aller se bloquer demain après-midi entre Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et les frontières allemandes. C'est sur le centre du pays que les pluies seront le plus actives, alors qu'au nord de la Loire et sur les régions du sud, les averses seront moins nombreuses. Et puis après le passage de la perturbation, un temps plus changeant va se mettre en place avec des éclaircies assez belles, notamment dans les régions de l'ouest. Le soleil s'imposera même entre l'Hérault et le Var demain après-midi, et puis en Corse, les éclaircies seront belles tout au long de la journée.
Et sinon, un début de baisse des températures, Sébastien.
Oui, l'ambiance va progressivement se rafraîchir jusqu'en fin de semaine, avec une journée de samedi particulièrement fraîche sur la moitié nord en ligne de mire. Malgré cette baisse, les températures seront encore de saison demain, variant entre 13 et 19 degrés avec 15 degrés pour Lille, Paris, Orléans, Caen et Clermont-Ferrand et 18 degrés pour Mulhouse, Lyon et Arcachon. On gardera plus de douceur autour de la Méditerranée avec par exemple jusqu'à 23 degrés du côté de Nîmes.
Sébastien Léas de Météo France, merci Sébastien. À tout à l'heure après 19h.